Bonjour à tous et merci à Nicolas pour cette introduction. Je vais être dans la même le même thème. Vous invite à prier avant ça. Merci Père parce que tu es effectivement celui qui nous apprend. Aide-nous à être à ton écoute. Encore, aide-nous à avoir soif d'apprendre auprès de toi. Nous te remettons aussi les enfants, que tu puisses les accompagner, guider aussi les moniteurs pour que nous puissions marcher ensemble à ta suite. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme Nicolas l'a dit, vous le savez, c'est la rentrée des classes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas concernés directement. La plupart d'entre nous, je pense, tous ici, on a terminé notre scolarité. Mais de manière indirecte, nous avons tous vécu quand même une sorte de rentrée. Alors, Nicolas l'a dit, en tant que parent, c'est en accompagnant les enfants à l'école, en préparant de manière logistique. Et même sans enfants au foyer, nous voyons plus de monde dans les magasins. Le boulanger, le boucher sont revenus, les activités de l'église reprennent petit à petit. Nous voyons donc vraiment autour de nous que c'est bien la rentrée. Alors, je reprends un peu ce que Nicolas l'a dit, la rentrée des classes, c'est souvent une nouvelle maître, une nouvelle maîtresse, un nouveau maître, parfois un nouvel établissement. Et les enfants, les parents se posent même plusieurs questions. Qu'est-ce que cette année nous réserve? Comment est le maître, comment est la maîtresse? Est-elle plutôt sympa ou est-elle plutôt sévère? J'ai encore des discussions devant l'école à ce propos. Le programme sera-t-il dense? Y aura-t-il 30 minutes ou 1 heure et demie de devoir? Ou 1 heure? Voilà les discussions qu'on peut entendre. En cette semaine de rentrée, je propose de prendre un texte, encore un texte, qui répond un peu à ce genre de questions dans le domaine de la vie spirituelle. Quelle vie Dieu nous réserve-t-il? En tant que maître, est-il plutôt sympa ou est-il plutôt sévère? Nicolas l'a dit, heureusement que c'est un bon maître. Le programme d'un disciple est-il dense? Et d'ailleurs, quel est son programme pour nous? Y a-t-il des devoirs? Combien de temps de devoirs par jour? Alors, avec un seul texte de la Bible, on ne peut pas répondre de manière exhaustive à ces questions. Mais Jésus a l'habitude, en quelques petites phrases, de nous faire beaucoup réfléchir et de susciter beaucoup de réactions aussi. Je vous propose de lire un de ces textes ce matin. On ne pourra pas regarder tout en détail, mais j'espère que les quelques paroles de Jésus que nous allons lire continueront de nous accompagner dans les jours qui viennent, dans notre réflexion, dans notre manière de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 51 à 62. Luc 9, 51 à 62. Oui, j'ai encore besoin d'un peu de passer le diable.
Ça,
Bonjour.
c'est pas grave.
Voilà, le lien n'est pas mal.
Ok.
Vous précisez. Lorsqu'approchèrent le jour où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent: Seigneur, veux-tu que nous appelions au feu des descendre du ciel et de les consommer, comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume. » Voilà, donc ce texte avait des paroles un peu énigmatiques. Jésus est-il un maître plutôt sympa ou plutôt sévère? Je ne pense pas vraiment que cette question soit la plus pertinente, finalement. Il y a des gens qui sont toujours souriants, mais pas toujours bienveillants, et même pas toujours généreux ni humbles. Et il y a des gens qui semble être froid, distant, avec un visage sévère, et pourtant plein de gentillesse. Ne nous arrêtons pas donc sur les apparences simplement. Ce texte montre les intentions de Jésus. Il est venu pour sauver. C'est la première partie du texte qui nous dépeint Jésus, qui est effectivement bienveillant. Mais Jésus dévoile aussi ce qu'implique l'engagement de le suivre. Et Nicolas aussi en a parlé avec le texte de Matthieu. Cela demande un changement de vie complet. C'est plus dur à entendre, car nous n'aimons pas les changements, pas toujours. Nous tenons à notre nature humaine, mais c'est pourtant ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors commençons par la première partie du texte où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver ». À l'époque, il existait des ministères itinérants. Alors aujourd'hui aussi, à l'époque c'était le cas. Les rabbis, c'est-à-dire les maîtres juifs, avaient des disciples. Ils enseignaient de village en village et ils étaient logés chez l'habitant. Jésus avait ce type de ministère itinérant. Dans notre texte, il se rendait à Jérusalem et passait par la Samarie. Et ses disciples devaient trouver des endroits où loger chez l'habitant. Sauf que les Samaritains et les Juifs étaient en rivalité. Jésus n'a pas pu être accueilli dans l'un des villages samaritains. Cela provoque certainement une frustration, voire une colère chez les disciples. Ils demandent à Jésus s'ils doivent demander au feu du ciel de venir les consommer. Jésus les reprend assez sévèrement. Il leur répond de mettre ses lèvres. Il leur répond notamment ceci au verset 56. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et on voit que lorsqu'il les reprend sévèrement, eh bien c'est pour faire passer un message plein d'amour. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver, les sauver. Cette parole de Jésus est très importante. La mission de Jésus n'est pas de perdre, mais de sauver. Cela nous donne beaucoup d'indications sur la notion de perdition et de salut. Jésus ne veut pas punir les Samaritains par le feu. Il n'est pas venu faire descendre une sorte de punition sur ceux qui ne le suivent pas. Depuis le plus jeune âge, on nous éduque avec un système de mérite. C'est ce qui se passe un peu à l'école. On rate un examen, on a une mauvaise note. On réussit, on a une bonne note. On se comporte un peu mal, on a un petit lion rouge. Ça, c'est à l'école de terminer. Et puis, on se comporte bien, on a un petit lion vert, colorié. Depuis le plus jeune âge, on nous éduque avec un système de mérite. Dans la pensée de beaucoup de gens, et même parmi les chrétiens, Dieu serait pareil. On a une mauvaise vie, Dieu nous jette en enfer. On a une vie assez bonne, plus que la moyenne, Dieu nous amène au paradis. Eh bien, ce texte remet complètement en question cette manière de voir les choses, qui qui reste très ancré dans notre culture. Jésus n'est pas venu pour distribuer des punitions ou des bons points. Il est venu pour sauver. Et cela sous-entend que l'humanité est en train de se perdre. Pour prendre l'image d'un sauvetage en mer, l'humanité est en train de se noyer. Jésus n'est pas venu pour jeter des gens à l'eau. Ils sont déjà là. Dieu n'a pas besoin de jeter des gens à l'enfer. L'humanité est déjà en train de se perdre elle-même. Voici la définition du mot sauver d'après le Larousse. Sauver. Faire échapper un être vivant au risque de mort qu'il encourt. Si Jésus est venu, c'est pour nous faire échapper au risque de mort que nous encourons. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des hommes, mais pour les sauver. La seule intention de Jésus, c'est de sauver. Et c'est avec cette affirmation que nous devons lire la suite et toutes les autres paroles de Jésus qui nous semblent dures. Tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il dit, c'est pour nous sauver et rien d'autre. Regardons maintenant la suite du texte. Je propose de commencer par la fin du texte, quand il parle de charme et de royaume de Dieu. Cela va nous aider à mieux cerner son discours. Donc la charme et le royaume de Dieu, quel rapport? Dans la deuxième partie du texte, plusieurs personnes veulent bien suivre Jésus. Et Jésus leur répond de manière énigmatique, voire même un peu dure. Intéressons-nous à la charme. Au verset 61, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire des adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus répond au verset 62, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? La charrue était un outil très important. Elle sert à retourner la terre pour préparer à recevoir les semences. La pièce principale de cet outil, c'est sa lame. La lame s'enfonce dans la terre et elle est reliée à un ou plusieurs animaux qui tirent la charrue. La terre est retournée là où la lame passe. Le rôle de l'ouvrier, c'est de tenir la charrue et de diriger les animaux pour que la terre soit retournée là où l'agriculteur veut planter ses graines. Dans la Bible, l'image de l'ouvrier ou de l'agriculteur est souvent utilisée pour parler des disciples de Jésus. Ceux qui mettent la main à la charrue sont ceux qui suivent le Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Paul, l'apôtre Paul, utilise l'image de l'agriculteur dans ce passage. Il parle de la construction de l'Église, alors pas la construction du bâtiment, mais de la communauté. Chaque croyant est un serviteur qui travaille la terre que Dieu lui demande de travailler. Autre part, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui jette des graines sur des terres. Selon les caractéristiques de la terre, la plante peut pousser ou mal pousser ou ne pas pousser du tout. C'est l'histoire connue sous la parabole du semeur. Il y a encore d'autres passages, où Jésus utilise l'image du fermier, de la terre, l'agriculteur. Par exemple, un jour, il a demandé à ses disciples de prier pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que la moisson est grande. Là encore, c'est l'image du cultivateur. Le maître, c'est Dieu. Il envoie des ouvriers pour témoigner de la parole de Dieu au monde. Et Nicolas a encore introduit ce thème de témoignage. La classe n'est pas limitée à 25, mais nous avons pour mission de témoigner de cet amour de Dieu au monde. Revenons à notre charrue. Celui qui met la main à la charrue, c'est celui qui travaille pour Dieu et proclame sa parole. Le champ ou la terre, ce sont tous ceux qui sont susceptibles de recevoir la parole de Dieu. C'est notre entourage, par exemple. Celui qui met la main à la charrue prépare la terre pour qu'elle reçoive les semences. Il semble que cette image de préparer la terre, C'est l'image de celui qui prépare les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Comment est-ce que nous préparons notre entourage à recevoir la parole? Parfois, on veut tout de suite parler de Jésus et on veut tout de suite voir des vies transformées. Mais avons-nous préparé le terrain? Avant de planter des graines, il faut préparer la terre. Le travail de la charrue, c'est bien de préparer la terre. Avant d'annoncer la parole de Dieu, il y a un travail de préparation. Et cela commence dans notre propre vie, notre manière de vivre. Comment parler de l'amour de Dieu si notre manière de vivre ne reflète pas cet amour? Comment parler d'un homme humble, Jésus, si nous sommes orgueilleux? Comment parler d'un Dieu qui réunit ses enfants dans une même famille, l'Église, si nous sommes divisés? Comment parler d'un Dieu qui nous pardonne si nous ne savons pas pardonner? Celui qui devient disciple de Jésus doit mettre la main à la charge. Il doit vivre d'une manière qui honore Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation, alors ce n'est pas aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui, mais l'être humain a toujours été pareil finalement. On veut bien avoir des droits, mais on n'aime pas les devoirs. On aime bien profiter, mais on n'aime pas s'engager. Mais le disciple de Jésus est appelé à mettre la main à la charge. Dieu attend quelque chose de lui. Alors attention, l'amour de Dieu ne se mérite pas. Nous n'avons rien à faire pour être reçus par Dieu. La Bible parle à Dieu qui accueille gratuitement. C'est la grâce. Dieu pardonne nos fautes. Nous n'avons rien à faire pour qu'il nous aime et qu'il nous pardonne. Mais ce n'est pas une excuse pour continuer de vivre comme s'il ne nous enseignait pas des valeurs pour notre bien. Si un enfant abîme son manteau, par exemple, s'il casse la fermeture éclair, ses parents chercheront à soit le réparer, soit le remplacer, afin qu'il ait de quoi se couvrir, se protéger du froid. Mais ce n'est pas une raison pour l'enfant de négliger ses affaires. De même, lorsque nous désobéissons à Dieu, et lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, Dieu nous accueillera toujours les bras ouverts pour nous pardonner et pour nous montrer le bon chemin. Mais ce n'est pas une raison pour négliger ses enseignements. Mettre la main à la charrue demande un travail sur nous. C'est un travail qui est au service de Dieu, puisqu'il sert à préparer la terre. Mettons la main à la charrue, mais ne regardons pas en arrière. C'est la deuxième partie de la phrase de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous que dans le contexte, un homme dit à Jésus, « Je veux te suivre partout où tu iras. Mais avant cela, je dois aller dire au revoir à ma famille. » Jésus est en train de lui dire que s'il veut le suivre, qu'il n'allait même pas dire au revoir à sa famille. Dans ce cas, il ne serait pas digne d'être de le suivre. Cette parole de Jésus est choquante et à mon avis, c'est l'effet que Jésus veut provoquer. La Bible n'enseigne-t-elle pas que la famille est importante? Qu'y a-t-il de mal à aller dire au revoir à sa famille? En fait, Jésus n'a pas reproché à cet homme de vouloir dire au revoir à sa famille. Il a profité de cette conversation pour enseigner une vérité. Les paroles de Jésus ont l'air dures et fermes, mais c'est justement ce qu'il veut nous faire comprendre. Suivre Jésus, c'est un choix qui implique un vrai changement, une nouvelle vie. On ne peut pas être enfant de Dieu et continuer intentionnellement de vivre comme si rien n'avait changé. Celui qui regarde en arrière, c'est celui qui suit Jésus, mais seulement sur les aspects qui l'arrangent. Une part de lui reste encore en arrière, dans l'autre vie. Mais lorsque nous rencontrons Jésus et que nous décidons de le suivre, c'est un revirement à 180 degrés et non pas 179,9. Un revirement à 180 degrés. Les autres réponses de Jésus vont dans le même sens. Au verset 58, Jésus fit remarquer qu'il ne cherche pas le confort avant tout. Les regards des tanières, les oiseaux du ciel brillent, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. au soleil et de manière passive. On met la main à la charge. Alors c'est vrai qu'il y a le repos dont on a parlé. C'est le repos du cœur que nous avons chanté d'ailleurs. Oui, suivre Jésus, c'est bénéficier d'un repos du cœur parce que nous sommes pleinement dans notre progression. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à la plage, peut-être, d'être à la montagne, d'être au repos sous le soleil, avec la mer à la main, mais d'être préoccupé, de ne pas avoir le cœur reposé. Et puis ça peut arriver d'être au travail et d'avoir le cœur en paix. Eh bien, le repos que Jésus nous offre, c'est ce repos-là, le cœur en paix, parce que nous travaillons pour le bien-être. Nous sommes dans notre vocation. Au verset 60, à celui qui veut d'abord enterrer son père, Jésus lui répond, laisse les morts enterrer leur mort, et toi, va annoncer le règne de Dieu. Je vous avoue que cette parole, comme les autres, fait partie de celle qui me choque le plus dans la Bible, et je ne la comprends pas entièrement. Mais Jésus peut certainement me faire comprendre qu'après la mort, tout est entre les mains de Dieu et non dans les nôtres. Il nous invite donc à proclamer premièrement la vie qu'il nous offre. Pour conclure, ces paroles de Jésus nous révèlent qui il est. Il est le Sauveur. Il est vraiment le Sauveur. Il est venu nous sauver parce que nous étions en train de nous perdre. Et le programme qu'il a pour ses disciples cette année et le reste de notre vie, c'est de nous associer à sa mission de sauvetage. C'est une mission importante et urgente. Il nous invite à préparer la terre pour que sa parole puisse être semée et germée. Il nous invite à avoir une vie qui reflète son amour, afin que lorsque nous parlons de son amour, les gens comprennent mieux de quoi nous parlons. Avec Jésus, la rentrée, c'est tous les jours. Tous les jours, sa parole nous le dit, sa bonté se renouvelle. Et tous les jours, nous pourrons vivre cette nouvelle vie et continuer de nous laisser transformer. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Père, parce que tu as envoyé ton Fils, non pas pour perdre les âmes, mais bien pour les sauver. Merci parce que tu nous sauves de nos mauvais choix. Tu nous sauves de nos fautes. Tu nous sauves parce que nous étions perdus. Merci parce que c'est la seule mission, en tout cas la mission la plus, la première mission avec laquelle Jésus est venu. Non pas pour perdre, mais pour sauver. Merci pour cet amour, cette grâce que tu nous fais. Notre Père, nous voulons être marcher à ta suite, être tes élèves, pour reprendre l'image de la classe. Nous voulons entrer dans ton programme, celui que tu as prévu pour nous, celui qui nous offre ce repos du cœur, le repos de notre âme. Aide-nous à mettre la main à la charge, à travailler en regardant le royaume qui est devant nous, et donc en restant attachés à notre vie terrestre. Oui, nous sommes bien sur terre, mais nous voulons être tes disciples sur cette terre. Que ton Église puisse être dans cette vision, cette manière de